deux mercredis par mois à 17h30 sur 91.2. Retrouvez les ateliers des Valouna, l'émission qui écrit à vos oreilles. Lecture de textes de toutes sortes écrits en atelier.
Des formats courts, toujours.
Des nouvelles.
Poétiques sûrement.
Théâtrales peut-être.
Inclassables parfois. Écrit libre.
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 Le moustique, là, c'est plus fort que moi, il faut que je l'écrase. Ça peut rendre fou, un moustique. Je suis désolé, quand même, quoi. Paix à son âme, mais je l'écrase.
Tu saurais me dire quel bruit ça fait, un moustique ?
Oui, bien sûr.
Mais les moustiques, non, ça devrait pas exister.
Quand ils commencent à bourdonner autour de l'oreille, tu passes une partie de ta nuit à tuer des claques.
C'est une bête quand même que quand elle te pique, elle te fait pas de cadeau, hein.
Eh oui, le moustique n'a pas bonne presse. Il faut dire, comme on l'entend dans la nouvelle suivante, que c'est un sacré gâcheur. Un bourdonnement maudit. Texte de Patrick Letu, lu par lui-même.
À Saïgon, il fait tout le temps chaud. La ville vibre d'innombrables pulsions. Elle ne s'accorde aucune halte, ni le jour, ni la nuit. C'est une fourmilière délirante de motos, de vélos, de scooters, de voitures, de camions, qu'il est malaisé de contourner. S'y fondre, c'est accepter l'alliance de la raison et de la fatalité. Dans le modeste appartement, les portes claquent. Les chaises valsent, les tables se renversent. Madame crie. Elle ne veut plus attendre monsieur toutes les nuits. Elle ne supporte plus son haleine chargée de mauvais alcool au retour de virées nocturnes. Lui, il hurle, persuadé qu'elle a un amant. Plusieurs, sans doute. La ville entière, peut-être. Il finit par l'attraper entre ses bras puissants. La serre contre sa poitrine en sueur. L'allonge sur le lit. La chimie va opérer, le bouillonnement des sens, la fusion des corps. Mais elle se relève sur ses coudes. Il y a comme un bourdonnement maudit au plafond, un tourbillon délirant d'ailes menaçantes. Elle le pousse hors du lit. Il se lève d'un bond, monte sur la table, dégrafe sa ceinture et tente de frapper avec le cuir l'insolente vermine. Multiples efforts inutiles. La bestiole tourne, virevolte. Figure une valse démente, dessine des arabesques imaginaires. Il fonce dans le réduit à balai. Trêve de plaisanterie. Il faut passer au stade supérieur, procéder à une purge définitive. Il en ressort avec une arme de destruction massive, remonte sur la table. Un jet de fumée s'échappe de la bombe insecticide, répandant une épaisse odeur nauséabonde. La porte d'entrée claque. Elle est sortie. Il jette la bombe par la fenêtre ouverte, se précipite à sa poursuite. Dévale l'escalier, bouscule la voisine, sort dans la rue, part à gauche, puis à droite, elle les passant. « Vous avez pas vu une femme ? Jolie frimousse, tête de chat. Non, sans les moustaches. » Un brave l'a vu s'engager dans une ruelle à deux pas de là. C'est une impasse pareille à sa vie en lambeaux. Un bout de rue, un bout d'amour, un bout de boulot, des bouts de rien. Il pénètre dans un café misérable et enfumé. Joue des coudes, se fraye un passage jusqu'au comptoir. Elle se tient là, debout devant un verre d'alcool de riz. Il envoie une lampée, ça lui brûle la gorge. « Pourquoi t'es parti, je te veux ? Pourquoi t'es venu, j'en peux plus ? D'abord, les insectes, c'est pas ma spécialité. Moi, il me faut du lourd. Un dragon, par exemple. Face à un dragon, t'aurais vu de quoi je suis capable. » Elle fait la moue. Il insiste. « Pour toi, tu sais, j'ai pu remonter tout le Mékong à la nage. »« Tu sais pas nager. »« Justement. » Il lui prend la main, l'entraîne dehors. En face, il y a un hôtel miteux, pas cher. Une bûche tient la porte ouverte en permanence, provoquant un infime et dérisoire courant d'air. Le taulier est bourru. « Deuxième étage, chambre 25. »« On paye en dollars. » Non, pas l'ascenseur, il est en panne. L'escalier est toujours en marche. Le confort de la chambre est spartiate. Une table, une chaise, un lit aux draps douteux. Ce n'est pas Byzance, mais ici, dans les bas-fonds de Chimine, c'est presque le paradis. Il l'entraîne vers le lit, la prend dans ses bras, dépose sur ses lèvres un long baiser. Cette fois, c'est sûr, l'alchimie va opérer. Le bouillonnement des sens, la fusion des corps. Elle est allongée sur le dos, elle lève un bras. Il y a comme un bourdonnement maudit au plafond, un tourbillon délirant d'ailes menaçantes.
Quand j'ai un moustique, ah bah, j'ai horreur de ça. Je les claque, mais c'est le pire. Un gros coup de torchon, allez,
chlac. Je me demande si parfois il ne vaudrait pas mieux se calmer. L'intrus, texte de Jean-Michel Marchand, lu par Marie-Christine Marchand.
Je venais de me glisser dans mon lit et commençais à sentir la douce chaleur de ma couette et je m'assoupissais tout doucement. Je fus réveillée par un bourdonnement agaçant. J'allumai ma lampe de chevet, mon regard un peu trouble en l'absence de lunettes se fixa au plafond. J'eus un réflexe de peur. Mais ce n'était pas du tout comme Paul, mon brave voisin du dessous, qui avait une peur panique des piqûres d'insectes. Je l'avais déjà vu plusieurs fois avoir des crises d'angoisse, suite à une piqûre, même petite et apparemment inoffensive. Il devenait livide, se mettait à trembler, à balbutier. Il n'arrivait pas à se contrôler et ses terreurs mettaient du temps à se calmer. Nous en avions discuté souvent et il était bien sûr impossible de le raisonner. Pourtant, il s'était renseigné auprès de son médecin qui lui avait dit qu'il existait des traitements efficaces. Son refus de se soigner me sembla bizarre, je n'avais pas insisté, même s'il fallait le soutenir parfois dans ses épisodes de panique. Non, je n'avais aucune phobie. Ces diptères ne m'inspiraient ni peur ni intérêt. Cette nuit-là, ce qui m'embêtait surtout, c'était qu'il était au-dessus de mon lit et que son vol bruyant pouvait me réveiller à tout moment. Cette vibration rapide des ailes provoquait un son aigu. Je décidai de me débarrasser de l'intrus. En fait, si les femelles émettent ce bruit, c'était dans un but bien précis. Signaler leur présence aux mâles et les attirer. À l'oreille des mâles, ce bzzz était un son délicieusement déséducteur. Je voulais faire ça proprement, sans l'écraser sur le plafond pour ne pas le nettoyer plus tard. Ce n'était pas simple, car il était haut perché. Au pied de mon lit, une ceinture, un cordon de rideau jonchait pêle-mêle sur le sol parmi les livres. Je pris d'abord la ceinture. Les premiers essais n'étaient pas concluants du tout. J'allais chercher une serviette dans la salle de bain, cet outil devrait être plus performant. Je me mis debout sur le matelas. C'était un peu délicat, je décidai de contourner le trublion. Je tendis la serviette entre mes deux mains et je lâchai l'extrémité gauche d'un geste soudain. Comme ma position n'était pas très stable, je faillis trébucher et mon coup ne fut pas très précis. La ceinture claqua dans l'air qui atteignit néanmoins l'insecte. Il atterrit directement sur le lit au lieu de tomber par terre. Comme la quête était décorée en périphérie par des arabesques et dessinée en son centre avec une grande cheminée, des bûches et un grand feu, j'avais un peu de mal à le distinguer. Puis, l'ayant identifié, je cherchais à l'anéantir définitivement. Je dus m'y prendre à plusieurs fois. Je pestais à chaque échec. L'intrus reprit son vol et se posa à nouveau au plafond et resta immobile. Je fis une halte pour réfléchir. Je changeai de tactique. Et je pensais avoir trouvé un autre moyen. Je me dirigeais vers l'armoire où mon petit aspirateur était rangé. Je prenais le temps de le brancher. Son bruit strident ne jeta pas l'intrus. Il ne bougeait pas en entendant calmement sa fin. L'insecte était aspiré. C'était terminé et sans bavure. Avec un certain contentement, je me glissais doucement sous la couette. J'avais eu tout de même du mal à trouver le sommeil et il m'avait fallu un long moment avant de fermer les yeux en toute quiétude. Le policier regardait le jeune homme un peu désemparé qui était devant lui. « C'est vous, Paul ?» demanda-t-il d'une voix douce. Le jeune homme acquiesça d'un hochement de tête. C'est vous qui avez découvert le corps ? Nouveau hochement de tête. Il ne voulait pas faire systématiquement alliance avec le policier. Je ne comprends pas. J'habite l'appartement qui est juste au-dessous. Je connais bien mon cher voisin. Hier soir, je me suis couché après minuit. Vous savez, ces vieux appartements sont très mal isolés et j'entends tout ce qui se passe au-dessus de ma tête. Je dormais profondément. Il devait être 1 ou 2 heures du matin quand je fus réveillée par des bruits étouffés étranges. Il semblait y avoir 1 ou plusieurs personnes qui se déplaçaient. J'entendais des bruits sourds de marche, désordonnés. Avez-vous entendu des cris, des éclats de voix ? Non, non, pas du tout. Je me souviens vaguement, c'était comme des mugissements prolongés mais très assourdis. C'était peut-être une illusion. Je n'ai pas porté plus attention que cela à ces bruits et je me suis rendormie. Et pourquoi êtes-vous allé chez lui ce matin ? Il m'arrive souvent d'aller le voir pour discuter avec lui, pour lui dire un petit mot. J'ai eu l'intuition que je devais lui parler. Le policier ne dit pas un mot et se contenta d'attendre. J'ai sonné au moins 2 fois. Pas de réponse. Je savais qu'il était là à cette heure-ci. J'ai tamponné à sa porte, puis inquiet, j'ai utilisé le passe-partout qu'il m'avait laissé pour les dernières vacances. Je l'ai trouvé étendu dans son lit, dit Paul. Le policier répondit dans un soupir. C'est incompréhensible. Il n'y a pas d'effraction, pas de traces de lutte, pas de blessure apparente. Mais de quoi est-il mort ? Vous avez vu l'expression de son visage ? Le policier impitoyable continua. On dirait qu'il est mort de peur.
FM 91.2, les ateliers des Valounais.
Eh ben, je suis par l'avant. Si t'es pas con, tu te casses. Si t'es con, tu vas mourir.
Ici, un gros moustique. Je prends le calibre 12. Et puis, ouais, bon, ça fait un peu de dégâts au plafond, mais.
Oui, ce serait bien de se calmer. Mais certains sont vraiment prêts à tous les sacrifices pour se débarrasser du monstre. Le Marshal de Vinarose. Texte de Michel Frappard. Lu par Marie-France Bouvre.
Ici à Vinarose, on m'appelle Kirby. Enfin, c'est le Marshal qui m'a appelé comme ça quand il m'a trouvé au pied des montagnes. On allait vers l'ouest avec mon père, mais il était tombé dans une crevasse. J'ai grandi ici, un peu le gamin de tout le monde. Depuis quelque temps, j'accompagne Marshall dans ses virées. Il sait se faire respecter. Chaque matin, je serre ma ceinture avec le revolver, un Colt 1866. Je suis un homme maintenant. Depuis que la gare est arrivée, il y a toujours du passage dans Vinarose. C'est devenu un gros bourg. Les maisons ont toutes un étage. La cloche sonne l'Angélus tous les soirs et la girouette grince sur le toit du château d'eau. Les éleveurs embarquent leur bétail dans le train pour Chicago et après, ils s'arrêtent toujours dans les rues d'ici. Il y a toujours du monde chez O'Hara, un Irlandais qui sait faire mousser sa bière. Il y en a qui profitent du salon de Madame Angèle. Elle est encore bien gironde, une très belle dame, bien entourée. Les filles assurent. Et le brave Bob, lui, connaît la couleur du whisky. D'autres vont chez Fernando, le bazar près de la gare. Sans oublier les passages à la banque, maintenant qu'il y en a une. Et chez le charron, pour ferrer les chevaux. Le Marshal fait l'ordre depuis plus de 20 ans. Il connaît la musique. Il intervient avant que ça dégénère. C'est souvent chaud à Vinarose. La saison chaude, les vents de sable sèment la rage. Ça énerve les hommes. Ça en fout les animaux qui propagent leur lot d'insectes. J'aime pas les mouches qui tourbillonnent. les tiques qui te piquent et les aoûtas qui te collent à la peau. Les semaines d'après, les grosses pluies transforment les rues en marécages et on a droit à d'autres bestioles. Une alliance des scorpions et des serpents qui se glissent près de l'office de marshal. Il y a intérêt à être prudent quand on déplace la réserve de bûches pour l'hiver. Je ne sais plus pourquoi je vous raconte tout cela. Ah oui, on était avec Marshall chez les Pierce. En fait, chez Madame Pierce, vu qu'on vient d'emmener le vieux Pierce à la morgue. Marshall est assis dans le salon à côté d'elle. C'est une belle dame, Mildred Pierce. Plus très jeune, mais belle encore. Moi, je me tiens debout près de la porte. Ça me fait bizarre, ce dedans de la maison. C'est pas comme chez nous. Il y a des gros fauteuils avec des tissus cramoisis, des meubles qui brillent, des rideaux qui empêchent la lumière comme chez Angèle. Il faut un cordon pour voir dehors. Et il y a des tapis sur les escaliers. Même que tu montes à l'étage sans faire de bruit. Question de bruit, justement, il n'y en a pas beaucoup. On peut même entendre les vomissements des mouches. Madame Pierce malaxe du drap blanc en s'essuyant les yeux. Marshall, lui, reste immobile, les mains sur les accoudoirs. Seuls ses yeux semblent dire quelque chose. Encore du silence. Et là, j'ai entendu le cliquetis de l'horloge sur les bourdonnements. Et les premiers mots. « Eh bien, Mildred, qu'est-ce qui s'est passé ?» Madame Pierce a encore hésité, puis plus moyen de l'arrêter. « Marshall, cela est toute une histoire. » Vous vous souvenez, n'est-ce pas, quand je suis arrivée dans cette maison, comment elle était? Une grange avec un fauteuil à bascule et des planches. Le domaine des poussières et des courants d'air. Pierce, mon cher époux, n'a jamais été doué pour le ménage ni la cuisine. Mais il était bon et doux. Alors, au fil des années, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai pu faire venir de Chicago les meubles et les bibelots. Pour le reste, j'ai demandé à Fernando. Pierce a fini par reléguer son fauteuil à bascule sur la terrasse. Il s'essuyait les pieds avant d'entrer. J'ai chassé les insectes avec des fumées de santal et des huiles de citronnelle. J'ai même cultivé des géraniums sur les appuis de fenêtre. Il était doux alors d'entendre les grillons striduler au milieu de la nuit. Madame Pierce se tait quelques secondes. Elle sort de sa poche un autre tissu blanc et dit « Depuis quelques semaines, Pierce semblait absent quand il rentrait. Cela est certain, il revenait de plus en plus tard de chez O'Hara. Je sentais la bière et les fumées âcres. Il oubliait son chapeau sur la tête. Je l'ai même entendu chanter dans la rue. Hier soir, il y avait autre chose. J'ai aussi perçu les fragrances de patchouli. Cela n'avait rien à voir avec la bière rousse. Et avec lui, il avait emmené des bestioles qui faisaient des arabesques dans le salon et me narguaient. En haut des escaliers, il avait même gardé ses chaussures. J'étais loin d'être satisfaite. Quand il a voulu me toucher, je me suis peut-être emportée. Un geste trop vif, une marche trop étroite. Il a perdu l'équilibre. Il est tombé. Il a tourneboulé dans un gros fracas. En bas, il n'a plus bougé. Mais je peux vous dire, cher Marshall, j'ai été bien satisfaite quand j'ai réussi à écraser ces satanés moustiques.
Oui, le moustique est dangereux. pessoas prestam atenção quando il y a de plantas na maison.
Et quand je vois une moustique, pour moi c'est dangereux parce que ça nous apporte le malaria que j'ai eu plusieurs fois. Quand on les voit, on les tue, on les tape, on les écrase et aussi on met des produits dans la maison. Partout au Kenya, il faut acheter une moustiquaire.
Certains parviennent quand même à éviter le drame.
La moustique, ben faut l'oublier. Et je pense que lui va vous oublier.
Asie, texte de Cécile Nivet, lu par elle-même.
Il fait une chaleur moite, difficile à supporter. Depuis une semaine, Tuan nous conduit au milieu des chemins de rizière et des plantations de thé. Ce soir, nous sommes de retour dans la grande ville. Il n'est pas très tard, mais la nuit est déjà tombée. Les sons et les couleurs se répondent et se superposent. Cordon lumineux des phares, éclairage des petites boutiques, odeur des soupes que l'on sert sur le trottoir, sourire des passants. Voitures, vélos, piétons, scooters, charrettes en tous sens. Bruit de moteur, klaxon, voix des marchands. Ahuri par l'incroyable imbroglio de la circulation, je n'ose pas traverser la rue. Inutile de vouloir les contourner. Avancez tout droit, eux sauront vous éviter. Tuan me prend la main et m'entraîne gaiement. Je lui fais confiance et ferme les yeux. En effet, chacun suit son chemin. Les voitures évitent les vélos les piétons, et le flot se déverse avec aisance, comme par enchantement. Une foule active, pressée, mais fluide et sans agressivité. On se frôle parfois, on se touche rarement, pas d'embûches. Tuan décide de faire halte dans un petit restaurant du quartier. Le rire éclatant du patron nous accueille. Au milieu de la salle, un feu gazouille doucement. Les bavardages des convives résonnent autour du wok. Tuan, en maître de cérémonie, annonce haut et fort les ingrédients au fur et à mesure. Gingembre, coriandre, badiane, leurs noms retentissent à nos exclamations. Les gens parlent fort, s'apostrophent et rient beaucoup. À la fin du repas, honneur aux différentes boissons. Alcool de riz et liqueur de fruits ravivent l'espace sonore. Sur le chemin du retour dans la nuit, ce cher Tuan chante et nous entraîne vers notre hôtel par un dédale de petites rues, sans lui impossible de s'y retrouver. Une arabesque lumineuse indique l'entrée d'un grand bâtiment. Dans le hall silencieux, un brave homme, un peu endormi, se lève lentement à notre arrivée et nous montre l'ascenseur. Notre chambre est située au dernier étage. Deux grandes baies vitrées donnent sur les toits de la ville. Immense tableau animé de couleurs et de lumière, se détachant sur le fond sombre de la nuit. La chambre est vaste et confortable. Les tentures aux motifs fleuris servent de paravent, mais pas de volets aux fenêtres. Autour du lit, des rideaux transparents donnent à la pièce une certaine solennité. Depuis la rue, les sons nous parviennent légèrement étouffés. De là-haut, nous échapperons sûrement au bruit de la circulation, me dis-je, une bonne nuit en perspective. Mais avant tout, j'asperge discrètement les bords des fenêtres d'une huile essentielle bio qui sent bon la lavande, la citronnelle et le géranium. Puis, les yeux pleins des images de notre journée, je m'écroule avec bonheur dans l'alliance des coussins et des odeurs d'encens. Rêvant du temple de Confucius, je tombe rapidement dans une délicieuse somnolence peuplée de musiques inconnues. Les divinités protectrices auxquelles nous avons versé quelques offrandes généreuses me bercent dans leurs bras multiples. Au loin, le ronronnement de la ville n'a pas vraiment cessé malgré l'heure tardive. Mon corps, aspiré par l'immensité des songes, s'abandonne. Les nouveaux paysages, les chemins dans les rizières, l'étrangeté des montagnes émergeant dans la brume peuplent mes rêves. Quelques coups de klaxon imprévus, une ou deux conversations un peu tapageuses, ne réussissent pas à me tirer complètement du sommeil. Mais bientôt, un petit sifflement chantant s'approche malicieusement. Il va et vient. Je le reconnais, le plus horripilant de tous les bruits de la nuit. J'attrape la ceinture posée sur la chaise à côté du lit et je la brandis comme une arme redoutable. Derrière mon rideau, je veille dans l'obscurité. Quand purgerons-nous la terre de ce nuisible absolu ? Il sait que je l'attends. Je le guette. Il s'y flotte. Il joue à cache-cache. Je chante, j'aime ta chair tendre, je me nourrirai de ton sang. J'allume la lumière, il a disparu. Ah ah, il fuit maintenant.
Patience, je sais ce que tu penses, animal satanique. Je te guetterai jusqu'à ce que mort s'en suive, tu le sais. Tu ne m'échapperas pas. Mon compagnon, qui dormait profondément, se retourne, ouvre les yeux et s'étonne. Que se passe-t-il ? Ne bouge pas, tu ne crains rien. Mais ce sifflement, c'est dehors, le jour qui se lève, la lune qui s'en va, les marchands qui s'installent. Bientôt le chant du coq. Allez, rendors-toi. J'ai cru entendre un autre bruit cette nuit-là. C'était le gardien qui chantait.
Anne-Laure et Julien qui ont réalisé les micro-trottoirs sur les moustiques. Merci à Ibrahim, Nico, Zora, Nancy, Joséphine et Marlène pour leur participation. Et merci aux clients et aux patrons du Café de la Pompe à Dalby.
En mars, les ateliers des Vallonas propose une émission spéciale pour les semaines d'éducation contre le racisme et les discriminations. Il y sera question de l'écoféminisme et de Françoise Daubonne, créatrice du mot et du concept d'écoféminisme. Titre de l'émission « La femme était esclave avant que l'esclave fût ». Diffusion sur Jet FM les 6 et 20 mars.
JTFM 91.2, les ateliers des Vallonas.
Cette émission a été réalisée par Sylvie Bauget. Voix Marie-Jeanne, réalisation technique Luc Richard.